Je vous invite à tourner avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ou si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le titre du message de ce matin, c'est « Seigneur, fais-nous entendre l'Évangile, notre foi ». Le 9 mars 1791, lorsque John Wesley quitta cette terre, il laissa derrière lui une bibliothèque bien fournie de livres. Un habit ecclésiastique dont il avait fait un intense usage et une réputation bien ternie. Mais aussi une Angleterre émue jusqu'aux entrailles et une Église stimulée à tous les niveaux, amenée à un renouveau dans sa vie spirituelle. John Wesley était un homme qui possédait véritablement à la fois la vision et les dons apostoliques, mais ce qui est de loin le plus important, c'est un homme qui a vécu dans la perspective de l'éternité. Consumé par la pensée de la brièveté de la vie, du travail colossal à accomplir, du besoin urgent de l'accomplir, c'est ainsi qu'il marchait, prêchait, implorait, avertissait et guidait. Wesley prêchait le message que nous ont laissé les apôtres. Il implorait les hommes à se repentir et par la foi à faire la paix avec Dieu, afin d'éviter les souffrances d'un enfer éternel. Les personnes qui avaient prêché de faux espoirs du salut furent démasquées, au travers de ses prédications sans détour. Wesley croyait que ceux qui ne prenaient pas le parti d'avertir le pécheur et le rétrograde se plaçaient eux-mêmes en position de tomber sous le jugement de Jésus-Christ. Il était déterminé à déclarer tout le conseil de Dieu, il offrait l'amour de Dieu en Christ, et il avertissait les terribles conséquences d'un rejet de l'Évangile. Wesley écrivait « Avant que je puisse prêcher l'amour et la grâce, je dois prêcher le péché, la loi et le jugement. » Nous avons réussi au XXe siècle à diviser la tombe. Nous avons marché sur la lune, nous avons mis au point des médicaments qui soulagent les malades, et pourtant notre monde se retrouve dans une situation d'insécurité sans pareil, voire au bord du gouffre économique, social et spirituel. Nous ferions mieux de regarder en arrière et constater le large fossé que nous avons creusé derrière nous. Nous avons remplacé les vertus de Dieu par des valeurs humaines autant dans notre société que dans l'Église. Et c'est le problème du monde aujourd'hui. Quand vous entendez parler de nos gouvernements des valeurs de la République, ben c'est que la République a mis de côté les vertus qui viennent de Dieu pour incorporer des valeurs humaines dans la République avec ce qui était bien avant s'est rendu mal aujourd'hui, ce qui était mal avant s'est rendu bien aujourd'hui. Voilà pourquoi on vit dans un tel chaos. Nous nous sommes habitués à entendre des messages d'encouragement et de motivation qui flattent la chair plutôt que de le crucifier parce que nous avons cherché à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, cessant ainsi de marcher dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Remercions le Seigneur pour ces hommes du passé qui se sont contentés de prêcher l'Évangile pour plaire à Dieu au lieu de prêcher pour plaire aux hommes. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que la prédication d'autrefois est également la prédication qui doit retrouver sa place aujourd'hui dans nos églises parce que c'est la seule parole qui est capable de ramener l'ordre dans le monde dans lequel nous vivons, car voici ce que dit celui qui est assis sur le trône. Je fais toutes choses nouvelles. Ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21:5. Chers amis, le message prêché par ceux qui nous ont précédés, non seulement le message que le monde a besoin d'entendre, mais que les chrétiens ont besoin d'entendre aujourd'hui, si nous voulons voir Dieu accomplir des miracles et voir des vies être transformées, non pas seulement être réformées. J'aimerais parcourir avec vous les Écritures ce matin pour examiner ensemble certains passages. Nous avons reçu un héritage à travers un Nouveau Testament. Hébreux chapitre 9, verset 14. Si vous l'avez, vous pouvez tourner, on va lire les versets 14 et 15. Et je vais vous dire pourquoi j'ai à cœur de prêcher sur le verset de 2 Corinthiens 5, 17, c'est que je fais de plus en plus la visite de différentes églises. Et Et j'entends des présidences qui m'amènent presque à déprimer avant de commencer à prêcher. Les présidences où, bon, ils sont des pêcheurs, on fait pitié, on ne peut pas rien faire, hein, ben, ça. À un moment donné, au lieu d'être élevé durant. Tu baisses, quoi. Et toujours un esprit de défaitisme, un esprit de dépression. Et la raison, c'est, elle est fort simple, c'est qu'on a. On a balancé les doctrines qui faisaient la force du christianisme, on les a jetées à l'extérieur pour faire rentrer les philosophies humaines à l'intérieur de nos églises, et ça ne règle rien. Et ça ne règle rien. Et pourquoi j'ai pris 2 Corinthiens 5, 17, c'est qu'en pleine, Jean-François était avec moi cette journée-là, c'est qu'en pleine réunion, eh bien, il y a un pasteur qui a osé dire qui a pris 2 Corinthiens 5, 17, et qui a osé dire que, oui, mais même quand on vient au Seigneur, on garde les résidus de notre ancienne vie. Mais ça, c'est un signe qu'on a oublié de parler de la nouvelle naissance. On a jeté la nouvelle naissance dehors. On a oublié de parler de la nouvelle naissance, c'est un miracle. Rien d'humain dans la nouvelle naissance, c'est un miracle. Et puis, elle nous dit comment vient la nouvelle naissance dans sa deuxième épître, elle dit, c'est par l'Évangile. Voilà pourquoi j'insiste depuis 17 ans, je demande aux gens de lire l'Évangile. J'ai eu des couples qui ont eu beaucoup de difficultés. Ils m'ont dit, comment on fait? On n'est pas né de nouveau. Comment on fait? Lisez l'Évangile. Et ils sont nés de nouveau. Pour la première fois de leur vie, ils ont pris au sérieux l'Évangile. Ils ont lu la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint a vraiment fait son œuvre et ils sont nés de nouveau. Des couples qui étaient en difficulté, vraiment sur le point du divorce, ils sont nés de nouveau, ils sont passés de la mort à la vie. Frères et sœurs, on ne peut pas naître de nouveau si on n'est pas mort. Impossible. Impossible. Je vais vous donner le verset tantôt qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Verset 14. S'il en est bien ici, combien plus efficace encore doit être le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même comme sacrifice parfait, c'est-à-dire sans tâche à Dieu, pour purifier votre conscience des œuvres mortes, voire inutiles, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et remarquez maintenant ce qui est écrit au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et qu'est-ce qu'il veut parler de la première alliance? Bien, il veut parler d'Abraham et de tous ceux qui sont morts par la foi dans l'Ancien Testament, et qui n'était pas au paradis, qui était dans le séjour des morts, c'est-à-dire du côté de ceux qui allaient être délivrés par Christ, le jour où il descendrait dans le séjour des morts, après sa mort pour les délivrer, eh bien, il parle de ceux-là. Tant et si longtemps que Christ n'avait pas offert le sacrifice, il n'y a personne qui allait pouvoir rentrer au ciel. Personne. 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 Alors, tous les élus de l'Ancien Testament, les élus de l'Ancien Testament, attendant dans le séjour des morts, c'est un peu ce qu'on a avec le riche, dans Luc, le riche qui est de l'autre côté du séjour des morts où il attend le jugement, et qui voyait Abraham, et qui demande à Abraham d'envoyer des gens sur la terre pour avertir ses frères qui se repentent de leurs péchés, parce que c'est épouvantable, lui déjà. Il n'est pas en enfer, il est juste un séjour des morts, il est en train de vivre les prémices de ce qu'il va vivre, ils envoient les gens sur la terre avertir les frères, c'est épouvantable. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Ben écoute, s'ils sont pas capables d'écouter la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, écoute, ils ne savent pas faire, on ne verra pas des gens une deuxième fois sur la terre. Et Christ est assez délibéré, c'est pour ça que sur la croix, ils ont mis le facteur, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, parce qu'avec son sacrifice, le séjour des morts des élus n'existe plus, on va directement au paradis. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous laisse entendre ici au verset 15. C'est ça à quoi il fait référence. Autrement dit, la mort des hommes délivre les hommes des fautes commises quand ceux-ci étaient soumis à la première alliance. Voilà. Dans le texte, l'expression nouvelle alliance est synonyme de Nouveau Testament. Nous savons qu'un testament reflète la volonté de quelqu'un. Et lorsque nous parlons de nouvelle alliance, nous parlons de nouvelle volonté ou d'un nouvel héritage à venir. Et c'est ce que le Nouveau Testament représente. Dieu avait fait un testament de première fois, l'ancien, il est devenu ancien, et maintenant il crée un deuxième testament, le nouveau, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament, eh bien, c'est ce que Jésus nous a laissé et c'est ce que nous avons reçu à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a un testateur, il doit y avoir aussi eu un décès. Et là où il y a eu un décès, il doit aussi y avoir un héritage. Christ est mort et par sa mort, nous sommes devenus les héritiers. Et ce passage de la Bible nous révèle tout ce que nous méritions dans le passé. La Bible est claire, nous avons tous failli à la loi. Nous avons tous une dette de péché, nous ne pouvions pas la payer. Et Jésus a accepté de payer notre dette avec son propre sang. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli », ce qui signifie que la dette a été payée intégralement. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le Nouveau Testament écrit par Dieu nous révèle que la dette de notre péché a été entièrement payée. Voilà votre héritage, voilà mon héritage. Non seulement votre dette du péché a été payée, mais il y a encore plus parce que le verset fait non seulement référence au passé, Mais il fait aussi référence à ce qui nous attend dans le futur au ciel, lorsque l'auteur parle d'un héritage éternel que nous allons recevoir. Moi, sans déjà être rendu là, j'aimerais savoir si vous savez vraiment, si vous êtes conscient de quel héritage vous attend au ciel. Intéressant, ça, hein? Ou si on se contente juste de savoir qu'on s'en va au ciel, qu'on a la vie éternelle, quel est l'héritage qui nous attend, nous, en tant qu'enfants de Dieu au ciel? Frères et sœurs, une place nous est réservée avec Jésus, notre frère, dans les cieux. Et puisque Jésus est devenu notre frère, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu a écrit un nouveau testament pour nous. Donc, nous sommes inclus dans ce testament. J'ai entendu parler de deux mendiants qui un jour étaient assis au coin d'une rue, et un des deux mendiants pleurait. L'autre mendiant lui dit, « Pourquoi pleures-tu? » Il lui répondit, « J'ai lu le journal ce matin. John D. Rockefeller, l'homme le plus riche de la planète, est décédé. » L'autre de répliquer, « Mais pourquoi pleures-tu alors? Tu n'as aucun lien de parenté avec lui. » « C'est vrai, dit-il. Voilà pourquoi je pleure. » Frères et sœurs, on a un grand lien de parenté avec le Seigneur Jésus. Il est notre frère aîné. Il est le premier qui a vaincu la mort. Il nous entraîne dans le cortège de sa victoire qu'il a remportée sur la croix et à travers la résurrection. C'est votre héritage, c'est mon héritage. Frères et sœurs, nous sommes les héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu un héritage avec tous les chrétiens qui ont vécu dans la lumière, et cet héritage, nous l'avons reçu parce que Dieu a écrit un nouveau testament. Il y a des règles qui ont changé par rapport à l'ancien. Dieu n'a pas changé, mais il y a des règles qui ont changé. Frères et sœurs, si nous savons qu'un héritage nous attend au ciel, c'est grâce à ce que nous apprenons dans le Nouveau Testament que nous a laissé le Seigneur. Nous pouvons maintenant entrer au ciel grâce à la nouvelle naissance. Et pour passer par la nouvelle naissance, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Le mot nouvelle ici, le même mot grec utilisé pour la nouvelle naissance. Deuxièmement, non seulement nous recevons un héritage à travers le Nouveau Testament, mais nous pouvons maintenant entrer au ciel en naissant de nouveau. Jean chapitre 3, versets 5 et 7. Pour ceux qui ont leur Bible, Jean chapitre 3, versets 5 et 7. Alors, on sait, c'est cette nuit-là, il y a un religieux, un docteur de la loi qui va trouver Jésus, qui s'appelle Nicodème. Donc, Nicodème, vous savez, c'est intéressant, c'est même pas un nom juste, c'est un nom grec. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une grande notoriété à l'époque, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les Grecs. Et il va voir Jésus parce qu'il a sûrement entendu parler de Jésus. Et ce que Jésus a dit, ça le laisse perplexe. Et il va le voir de nuit. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi, il y a plusieurs raisons qui sont données pourquoi il est allé le voir de nuit. Mais voilà ce qu'il dit. Jésus lui dit, versets 5 à 7. En vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et le pauvre Nicodème, un grand religieux, lui, il voyait pas l'aspect spirituel, il voyait uniquement le point de vue humain, physique. Il va y répondre, mais comment est-ce qu'un homme, moi je suis déjà vieux, comment je pourrais rentrer dans le ventre de ma mère? Mais Jésus va lui dire, ça n'a rien à voir. Et Jésus explique ici comment notre nom peut apparaître dans ce Nouveau Testament, pour que nous devenions héritiers et fils des biens que Dieu réserve à ses enfants. Et c'est par une nouvelle naissance. Il va dire à Nicodème, qui était un homme moralement déçu de nous tous ce matin, tu dois naître de nouveau. Parce que voyez-vous, peu importe jusqu'à quel point Nicodème était une bonne personne, il n'était pas suffisamment bon par rapport aux exigences de Dieu, puisque Dieu demande la perfection. Voilà pourquoi il est impossible pour un être humain de gagner son salut. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, ce qui est né d'un père humain est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, pardon, tu dois naître de nouveau, parce que si tu ne l'as pas de nouveau, le jour viendra, Nicodème, où tu souhaiteras n'être jamais né. Jésus a dit concernant Judas, malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Qu'est-ce que cela signifie être né de nouveau? Cela signifie que vous recevez une nouvelle nature, vous recevez une nouvelle vie, vous recevez une nouvelle espérance, et que Christ vient habiter en vous. Quand je suis né la première fois, je possédais l'ensemble de gènes et de chromosomes qui m'ont fait devenir ce que je suis par nature. Mais quand Jésus est venu habiter en moi, j'ai reçu de nouveaux gènes qui sont entrés en moi de façon surnaturelle. J'ai été régénéré, je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie de Dieu et je suis devenu participant de la nature divine, 2 Pierre 1-4. Et depuis, Dieu habite réellement en moi par son esprit et il m'a transformé par la nouvelle naissance. Je ne peux pas me transformer, c'est impossible. Dieu nous transforme. Et comment Dieu nous transforme? C'est d'abord à travers sa parole. Comment Dieu nous transforme? C'est d'abord au contact avec des frères et sœurs en Christ. Comment Dieu nous transforme? C'est aussi avec le contact des gens du monde. C'est trois manières que Dieu va nous transformer. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Chers amis, c'est pas une existence éternelle dont vous avez besoin, parce que vous allez exister éternellement, soit au paradis, soit en enfer. Ce dont vous avez besoin, c'est la vie éternelle. Jésus a dit aux gens qui existaient déjà, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Frères et sœurs, c'est un héritage que nous attend au ciel grâce à ce que nous apprenons dans le Nouveau Testament. Dans le Testament que Dieu nous a laissé, si nous pouvons maintenant entrer au ciel grâce à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance fait de nous des nouvelles créatures. Vous rappelez-vous du premier passage que nous avons lu au tout début, 2 Corinthiens 5:17? Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire un être nouveau. Les chrétiens ne sont pas seulement de bonnes personnes, elles sont aussi des nouvelles créatures parce qu'elles sont unies à Jésus-Christ. Et quand on parle d'être en Christ, c'est l'image du mariage qui revient. Quand quelqu'un est passionné pour Christ, il ne fait plus qu'un avec Jésus-Christ. Quand on est né de nouveau, c'est la notion du mariage qui fait surface. Nous ne faisons plus qu'un en Jésus-Christ. Lorsqu'on dit « tu dois être passionné pour Christ », encore une fois, il faut mettre nos sentiments de côté. Ce n'est pas une question de sentiment. Quand on dit que quelqu'un doit être passionné pour Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Que Christ doit occuper la première place dans ses pensées, doit occuper la première place dans ses actions et dans ce qu'il pense. C'est ça être passionné. C'est qu'il n'y a pas de place pour autre chose dans sa vie. C'est ça être passionné. Ce n'est pas une question de sentiment. Si quelqu'un est revenu au Christ, il est une nouvelle créature. Nous recevons une nouvelle vie, nous recommençons en œuvre. Tout ça, c'est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Et c'est le message qui était prêché autrefois par l'apôtre Paul, et par l'apôtre Pierre et par les apôtres. Quelqu'un a raconté qu'il avait participé à une campagne d'évangélisation en Floride et qu'il avait entendu une histoire invraisemblable. Il s'agit de deux jeunes prédicateurs qui avaient organisé une campagne de réveil dans une région de la Floride et rien ne se passait. Les deux prédicateurs se sont mis à étudier l'histoire du réveil et ils ont découvert qu'une des façons de provoquer un réveil dans une ville, c'était de trouver l'homme le plus méchant de la ville et de l'amener à Christ. Alors, ils se sont donc mis à faire une recherche et ils ont finalement découvert que l'homme qui était reconnu pour être le plus méchant de la ville, eh bien, c'était un forgeron qui s'appelait John, et donc on savait qu'il avait été assassiné, qu'il avait déjà assassiné un homme. Alors, on ne sait pas comment, mais il a réussi à s'en sortir suite à des erreurs techniques de la part des enquêteurs, alors on n'a jamais pu le condamner. Et pourtant, dans la ville, tout le monde savait que c'est lui qui avait assassiné un homme. Et John était un homme très violent, très dur, ne laissant paraître aucun sentiment. Tous les citoyens de la ville évitaient tout contact avec lui, et ceux qui devaient faire affaire avec ce forgeron, eh bien, entraient et sortaient rapidement de son atelier. Les deux jeunes prédicateurs décidèrent d'aller trouver ce forgeron, qu'on surnommait John la Terreur. Il avait une barbe qui lui cachait la moitié du visage et des cheveux noirs tout ébouriffés. De plus, c'était un homme très costaud et sans aucune pitié. Prenant leur courage à deux mains, les deux jeunes prédicateurs demandèrent à Dieu de leur donner le courage de pouvoir aller lui parler. Ils entrèrent dans son atelier et le trouvèrent tenant son gros marteau dans une main, martelant une pièce de fer qui venait de sortir du feu. Ils commencèrent à lui parler sur le réveil et l'invitèrent à venir assister à la réunion le soir. Pour toute réponse, il se mit à marteler à nouveau la pièce qu'il tenait en main et ils décidèrent de prier en haute voix pour lui. Probablement que jamais personne n'avait déjà prié pour lui pour montrer qu'il l'aimait. Alors, au moment où les deux prédicateurs venaient de terminer de prier et qu'ils s'apprêtaient à quitter l'atelier, ils entendirent l'homme leur dire « Je vais souper et j'irai vous entendre prêcher ce soir. » Ils retournèrent immédiatement voir le pasteur de l'église pour annoncer que John Latterard leur avait dit qu'il viendrait ce soir pour entendre le message de l'Évangile. Ils croyaient que le pasteur serait tout content d'apprendre cette nouvelle, mais il était abattu et presque effrayé. Ils lui ont demandé ce qu'il n'allait pas, pensant que le pasteur avait honte de le voir venir à l'église. Ils lui dirent « Ne savez-vous pas que Dieu, le pasteur, ne savez-vous pas que Dieu l'aime autant que vous tous? » Le pasteur leur a regardé et leur dit, Je sais que Dieu l'aime autant que vous et moi. Et d'une certaine manière, je suis vraiment heureux qu'il vienne. Et vous êtes nouveau dans la ville, vous n'êtes que de passage. Et ce que vous ne savez pas, c'est que nous allons avoir à faire face à un grave problème ce soir. L'homme que John la Terreur a tué se trouve être le mari de notre pianiste. C'est une des femmes les plus douces et parmi les plus chrétiennes que j'ai jamais rencontrées. Et c'est elle qui va jouer au piano ce soir. Je ne sais pas vraiment comment il va réagir, lorsqu'elle le verra entrer dans l'église. N'oubliez pas ce que cet homme a quand même tué son mari. Je ne sais pas si je dois le soumettre à ça. Je sais que Dieu veut qu'il entende l'évangile, mais voilà, moi, ça me cause un problème. Il dit au pasteur, eh bien, pasteur, nous devons vous avouer que nous l'avons déjà invité et qu'il nous a dit qu'il viendrait. De plus, presque tous les gens de la ville ont été avertis qu'il viendrait. Ce soir-là, la porte de l'église s'ouvrit et John la Terreur entra. Il s'installa quelque part en arrière de l'église. Et lorsqu'il est entré, bien sûr, tout le monde s'est retourné pour le regarder. Puis, avait la tête tournée vers la pianiste pour savoir comment elle réagirait. Elle avait continué à jouer. La réunion commença par un cantique, puis le prédicateur se plaça derrière la chaire. Il prêcha le Seigneur à Christ, la grâce de Dieu, le pardon des péchés pour les hommes et la nécessité de naître de nouveau. Il fit un appel à la repentance et à la conversion. On vit alors le forgeron marcher dans l'allée et venir se placer devant l'estrade, mettant sa grosse main dans celle du pasteur, et il invita Jésus à venir habiter dans son cœur. Le pasteur pria pour lui et lui demanda s'asseoir dans la première rangée afin de s'entretenir avec lui. Au même moment, la musique s'arrêta. La pianiste venait d'arrêter de jouer. Tous les yeux présents se tournèrent en direction du piano. La pianiste s'était levée. Les gens pensaient qu'elle s'apprêtait à quitter l'église. Mais elle ne se dirigea pas vers la porte de sortie. Elle se dirigea plutôt vers l'avant pour s'arrêter devant John la Terreur. Elle la regarda droit dans les yeux. Puis elle se pencha, lui donna un baiser sur la joue et retourna à sa place pour jouer du piano. Après le culte, les gens allèrent trouver la pianiste et lui demanda comment elle avait pu faire pour embrasser un tel énergumène. Comment tu peux faire une chose pareille à l'homme qui a assassiné ton mari? Oh, dit-elle, l'homme qui a assassiné mon mari est mort. Celui que j'ai embrassé ce soir est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, tournez dans Galates chapitre 2, verset 20. Nous allons lire le verset 19 et vers 5. Je vais le lire en français courant. Alors, dans la nuit seconde, on dit « J'ai été crucifié avec Christ ». En français courant, on dit « J'ai été mis à mort avec Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. » Paul dit « J'ai été mis à mort ». Paul est mort. Vous avez été crucifié avec Christ. Ce n'est donc plus vous qui vivez, puisque c'est Christ qui vit en vous à travers sa résurrection. Paul dit « Je suis mort ». Ce n'est donc plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. La vie humaine qui est la mienne maintenant, je la vis. Comment? Dans la foi au Fils de Dieu qui a donné sa vie pour moi. C'est ce qu'il dit, qui m'a tant aimé, qui a donné sa vie pour moi. Galates chapitre 2, verset 19 et 20. Chers amis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Passées. J'ai été victime de beaucoup d'abus dans ma vie. Je ne vous raconterai pas en détail ce qui m'est arrivé, mais j'ai été victime de beaucoup d'abus. C'est pas pour rien que j'ai vécu en gang jusqu'à un certain âge. Il n'y avait que seulement Jésus-Christ qui peut aider. Je n'ai pas regardé les résidus. Terminé, Jacques Hudon, qui était victime d'abus, dans sa vie, il est mort. Il a été crucifié sur la croix. J'ai 70 ans, j'ai simplement 35 ans de vie chrétienne. Moi, j'ai 35 ans, en fait. Parce que Jacques Hudon, il était mort, enterré à 35 ans. Mort! Pas à moitié mort! Pas en train d'expirer. Mort! C'est ce que Paul dit! C'est important, c'est une doctrine capitale du christianisme. Frères et sœurs, on vit dans un monde qui est rempli de victimes. Ce ne sont que des victimes. Le problème avec la victime et le pécheur, vous savez, c'est quoi? La victime, elle regarde toujours ses problèmes. Toujours en train de s'examiner. pas nécessairement de se remettre en question. La Bible ne nous traite pas comme des victimes. Elle dit que la seule victime, c'est Jésus-Christ, victime expiatoire pour vos péchés et pour mes péchés. Dans le monde, nous ne sommes pas des victimes. Nous subissons la conséquence des péchés des autres. C'est différent. Et les autres, il y en a qui subissent la conséquence de nos péchés. On a fait du mal à des gens avec des langues, avec notre langue. On en a blessé pour longtemps avec notre langue. Et aussi à travers nos actions. Mais nous subissons, écoutez, nous sommes dans le monde du diable, nous subissons la conséquence des péchés des autres, des abus des autres qui ont été commis sur nous. Et si on se voit comme des victimes, jamais on va se remettre en question pour se tourner vers le Seigneur et dire, écoute, prends ça, Seigneur, prends-le, libère-moi. Je viens pas comme un victime, je viens comme un pécheur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai fait du mal, je reconnais que j'ai désobéi à ta loi. Seigneur, donne-moi ton esprit, donne-moi ton amour en tout. Pardonne-moi, donne-moi ton amour. Seigneur, fais-moi une nouvelle personne, une nouvelle créature, unie à Christ. Le miracle se passe. Je visite des églises et c'est incroyable le nombre de victimes que je rencontre. Des victimes, des gens qui tournent toujours dans la même souffrance. Toujours en train de se remémorer ce qu'ils ont vécu dans le passé. Ils font trois pas en avant, puis après ça, trois mois, ils en font cinq en arrière parce qu'il leur arrive un petit quelque chose. En Christ, on est libéré. Le privilège du chrétien, c'est la délivrance du péché des autres causés sur nous et de nos péchés. C'est-à-dire du mal que les autres nous ont fait. Et du mal aussi qu'on a fait aux autres, mais de nos péchés. Paul dit, la vie chrétienne qui est la mienne maintenant, la vie maintenant, hein, Christ vit en moi, vit sa vie en moi. On a le Saint-Esprit en nous, frères et sœurs. Et c'est important. Chers amis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, pas quelques-unes, pas des résidus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut y croire. Tout est une question de foi. Moi, je ne peux pas vous convaincre. Ce que vous avez fait dans le passé ne compte plus puisque la personne que vous étiez a été crucifiée avec Christ sur la croix. Il n'y a plus d'hier, il n'y a plus de lendemain en Christ. La prostituée née de nouveau devient vierge aux yeux de Dieu. Et le cœur du meurtrier devient blanc, plus blanc que la neige aux yeux de Dieu. C'est le bon vieux message de l'Évangile prêché autrefois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que son ancienne vie est morte, effacée, elle est en Christ. Christ l'a pris ça. Il l'a pris ça avec nous. Frères et sœurs, nous recevons, frères et sœurs, c'est un héritage qui nous attend au ciel grâce à ce que nous apprend le Nouveau Testament que nous a laissé le Seigneur. Si nous pouvons maintenant entrer au ciel grâce à la nouvelle naissance, si par la nouvelle naissance nous devenons des nouvelles créatures, à cause de cela, nous recevons un nom nouveau de la part de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 17 pour ceux qui ont leur Bible. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Non seulement, chers amis, nous devenons une nouvelle création, mais nous obtenons un nouveau caillou avec un nouveau nom. Certains se disent peut-être qu'est-ce que ça signifie. Frères et sœurs, il faut retourner à cette époque. Parce que lorsque les gens devenaient des amis très 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 proches, qu'ils établissaient une relation d'alliance les uns avec les autres, il arrivait parfois que pour symboliser cette relation, ils prenaient un beau caillou qu'ils brisaient en morceaux. Une personne écrivait son nom sur un côté du caillou, et l'autre prenait un autre morceau de caillou, écrivait son nom sur un autre morceau du caillou. Et ensuite, ils échangeaient ensemble leur caillou. C'était une façon de dire, je t'appartiens, tu m'appartiens, et comme je t'appartiens et que tu m'appartiens, nous faisons tous deux partie d'un tout, d'une pièce complète. Puisque je représente une moitié et toi l'autre, tout ce qui t'appartient, tout ce que j'ai t'appartient et tout ce que tu as m'appartient. Si maintenant un homme très riche avait écrit son nom sur la moitié d'un caillou et l'avait changé contre le vôtre, cela signifiait que lorsque vous veniez dans sa ville ou que vous entriez chez lui, ou lorsqu'il venait dans votre village, tout ce qu'il avait vous appartenait. C'était comme une sorte de carte de crédit. Vous n'aviez qu'à montrer le caillou, c'était la carte de crédit du ciel. Vous ne deviez pas quitter la maison sans ce caillou, Parce que si vous avez, parce que vous aviez le nom de votre ami qui figurait sur ce caillou-là, votre bienfaiteur avec qui vous aviez fait une alliance. Voici ce que dit le Seigneur ici. Je te donne un caillou blanc, et sur ce caillou blanc, eh bien, est écrit un nom nouveau. Est-ce que vous savez c'est quoi le nom sur le caillou que Dieu vous donne? Ce n'est pas qu'il nous donne un nouveau nom par lequel nous sommes appelés. Il nous donne un nom nouveau pour que nous puissions l'appeler. Parce que voyez-vous, le nouveau nom qui est écrit sur le caillou qu'il nous donne, c'est le sien. Et c'est un nom nouveau. Frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'avant que nous soyons sauvés, nous connaissions Dieu en tant que Créateur. Et vous, quand nous sommes sauvés, nous le connaissons maintenant sous un nom nouveau. Nous le connaissons comme étant un ami. Nous le connaissons comme étant le Sauveur. Nous le connaissons comme étant Abba Père. En fait, nous le connaissons d'une manière que nous ne pouvons même pas le décrire. C'est vrai que Dieu nous aime tous, mais il y a plus encore. Nous devons intégrer dans notre cœur qu'il aime chacun de nous. Est-ce que vous voyez la différence? Qu'il nous aime tous, c'est très général. Mais qu'il nous aime chacun de nous d'une manière particulière. Vous savez, j'espère que je ne serai pas personne, hein, je viens d'une tradition catholique. Vous savez pourquoi j'ai jamais compris le message de la croix chez les catholiques? Parce qu'on disait que Jésus est mort pour les péchés du monde. Ça n'a pas interpellé personne. Le message évangélique, c'est quoi? C'est que Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Voyez-vous quoi ça? C'est personnel. Je suis mort pour les péchés du monde. Tellement long sur la terre. Je ne sens pas concerné. Hein? Le message évangélique, c'est une mort pour chacun du monde. C'est toute la différence. C'est vrai que Dieu nous aime tous, et il aime chacun de vous. Voilà pourquoi il nous a donné un caillou avec son nom écrit dessus, parce que nous sommes devenus héritiers d'une nouvelle alliance en étant unis à Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est un héritage nous attend au ciel. Grâce au Nouveau Testament que nous a laissé le Seigneur Jésus, si nous pouvons maintenant entrer au ciel grâce à la nouvelle naissance, si par la nouvelle naissance nous devenons des nouvelles créatures, et si à cause de cela nous recevons un nom nouveau par lequel nous pourrons l'appeler, savez-vous ce que cela fait de nous? Cela met un cantique nouveau dans notre cœur et c'est vraiment le cas. Moi, le cantique nouveau que j'ai dans mon cœur, vous savez, c'est lequel? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Il y a des conditions dedans aussi. Ça m'appelle que je dois marcher droit avec le Seigneur. Ah, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, malgré tout. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ça, c'est le cantique nouveau que Dieu a placé dans mon cœur. Dans le psaume 43, le psalmiste, c'est une magnifique ça. Le psalmiste écrit ceci. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Autrement dit, le Seigneur a mis sur mes lèvres un cantique nouveau, un chant de louange pour notre Dieu. Beaucoup en seront témoins et reconnaîtront l'autorité du Seigneur et lui donneront leur confiance. Vous savez, c'est quoi le hic ici? Il ne dit pas que le Seigneur a placé dans ma bouche un chant nouveau et que des gens l'ont entendu. Les gens l'ont vu. Intéressant, ça, hein? D'habitude, les cantiques, on l'entend, on ne voit pas, hein? Si ce cantique nouveau est dans votre cœur et qu'il vit dans votre cœur, qu'il est vivant, les gens vont voir sur votre visage que vous avez une relation particulière avec quelqu'un. Vous allez piquer cette valeur curiosité. Il dit bien, hein, j'ai vu. Hein, j'ai regardé dans plusieurs versions, c'est pas j'ai entendu. Les gens ont entendu le cantique, ils ont vu. Ils ont vu sur mon visage qu'il y avait quelque chose de particulier dans mon cœur. Nous n'avons pas tous une belle voix comme notre sœur Edwige, mais nous pouvons tous avoir un cantique à fredonner dans notre cœur. Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. J'ai un cantique dans mon cœur parce que je suis né de nouveau. C'est la joie du Seigneur qui fait chanter mon cœur. Et je suis certain que c'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous êtes donc les héritiers à cause du Nouveau Testament. Est-ce que cela vous a amené à passer par une nouvelle naissance? Avez-vous été délivré en devenant une nouvelle nature? Dieu vous a-t-il donné un nouveau nom? Si oui, cela signifie que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et à cause de cela, il devrait y avoir un cantique dans votre cœur. Y a-t-il de la joie dans votre cœur ce matin, frères et sœurs? Parce que Dieu fait de nous ses héritiers, nous apprêtons, on va essayer d'aller rapidement, nous apprêtons à recevoir un héritage, une nouvelle terre et un nouveau ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Regardez si c'est pas merveilleux ce qui est écrit dans Apocalypse 21, 1. C'est pas dur, hein? Vous allez jusqu'au dernier couvercle, vous revenez quelques pages avant, puis vous êtes dans Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Rappelez-vous Jean, il est maintenant sur une île. Il le séparait de son peuple. Mais il voit le ciel et il n'y a plus de séparation. Et il dit au verset 2, je vis descendre du ciel. La voix descend du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, c'est-à-dire le tabernacle de Dieu, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Frère, c'est ça, combien de fois ai-je présidé une cérémonie mariale où j'ai pu regarder la mariée qui rentrait dans l'allée centrale. Je n'ai jamais vu une épouse qui n'était pas plus belle que la mariée ce jour-là. Jean écrit dans les versets 3 à 4, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici la demeure de Dieu est parmi les hommes. Frère, c'est incroyable ça. Voici la demeure de Dieu qui est parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Frères et sœurs, on nous dit que le trône de Dieu va être au centre de la ville de Jérusalem. Frères et sœurs, pour qu'on puisse le voir, c'est Jésus qui va siéger sur le trône, frères et sœurs. Et nous allons régner avec le Seigneur Jésus. Plus de gémissants, plus de pleurs, plus de larmes, plus de soupirs et plus de deuil. Toutes ces choses appartiennent au passé, frères et sœurs. Écoutez ce qui est écrit au verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et dignes de confiance. Je fais toutes choses nouvelles. Vous ne pouvez pas vous imaginer la gloire et la splendeur de ce lieu appelé le ciel, ou si vous préférez le paradis. Vous dites, pasteur, croyez-vous au ciel? Oui, je crois au vrai paradis. Je ne crois pas une sorte d'état d'âme ou de nature gazeuse, mystique, floue, vaporeuse et inconsciente. Je crois en un paradis plus réel que cette plateforme sur laquelle je me tiens actuellement. Merci, mon Dieu, pour ce paradis qui est réel. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et dans cet endroit, il n'y aura plus de douleur, plus de mort. S'il y avait un endroit sur cette terre, frères et sœurs, où il n'y aurait plus de douleur, plus de maladie, plus de chagrin, plus de séparation. S'il y avait un endroit sur cette terre, frères et sœurs, où tout le monde pourrait vivre en parfaite santé, sans querelle, ni guerre, où tous les besoins de chacun seraient comblés. Ne voudriez-vous pas chercher cet endroit de toutes vos forces et de tout votre cœur? Bien sûr! Eh bien, cet endroit, il existe vraiment, mais pas sur cette terre, sur cette nouvelle terre que Dieu va créer un jour. Vous êtes en même de ça. J'aimerais vous lire en terminant une très belle lettre écrite par l'évangéliste Harry Rimmer, qui est né entre 1890 et 1952, donc 19e et 20e, adressé au pasteur Charles Fuller, qui est mort en 1968. Il écrit ceci. « Cher pasteur Fuller, dimanche prochain dans votre sermon, vous allez parler du ciel. Cela m'intéresse d'entendre parler du ciel parce que j'y détiens le titre de propriété depuis environ 50 ans. Je ne l'ai pas acheté, il ne m'a rien coûté, je l'ai reçu gratuitement. Par contre, celui qui me l'a donné l'a acheté à un très grand prix, et ce, suite à un énorme sacrifice. » Je ne le garde pas dans le but de spéculer, ce n'est pas un terrain vacant, car depuis environ 50 ans, j'envoie des matériaux au grand architecte de l'univers qui est en train de construire une maison pour moi. Une maison qui n'aura jamais besoin d'être rénovée ou réparée, parce qu'elle me conviendra parfaitement et parce qu'elle ne vieillira jamais. Les termites ne pourront jamais saper son fondement, et elle repose sur le rocher des siècles, le Seigneur lui-même, Isaïe 26, 4. Le feu ne peut pas la détruire, les inondations ne peuvent même pas l'emporter. Aucune serrure, aucun verrou n'a besoin d'être posé sur les portes, car aucun voleur ne peut y mettre les pieds. Là où se trouve ma maison, qui est maintenant presque terminée et que je m'apprête bientôt à y habiter sans crainte d'être jeté. Présentement, il y a une ombre de la mort entre cette terre où je vis présentement et celle dans laquelle je me retrouverai dans très peu de temps. De plus, je ne peux pas entrer dans cette ville sans traverser cette vallée, mais je n'ai pas peur car la meilleure amie que j'ai jamais eue, marche avec moi dans la même vallée depuis près de 50 ans. Et il en a chassé toute sa moisson. Il a toujours été présent dans ma vie, depuis que nous nous sommes connus, et j'ai la promesse, sous forme imprimée, que non seulement il ne me délaissera jamais, mais qu'il ne m'abandonnera plus jamais. Il sera avec moi pendant que je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, et tant aussi longtemps qu'il est avec moi, eh bien, je ne m'égarerai jamais de mon chemin. J'espère entendre votre sermon dimanche prochain, si Dieu ne m'a pas rappelé lui, mais je n'ai aucune certitude là-dessus. Mon billet pour le ciel ne mentionne aucune date ni l'heure de mon départ, aucun billet de retour, et ni la permission d'emporter des bagages. Oui, je suis prêt à partir. Si je ne suis pas ici lorsque vous prêchez dimanche prochain, on se retrouvera un jour là-haut. Signé Harry Rimmer. Dans la même semaine, Harry Rimmer est mort. Il avait obtenu son laissez-passer pour entrer au ciel. J'admire ces hommes de foi qui s'appuyaient à l'époque sur la parole de Dieu. Chers amis, j'attends avec impatience un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'attends avec impatience d'entrer dans ce lieu appelé ciel. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera le ciel? Pouvez-vous même penser à ce que le Dieu Tout-Puissant nous a préparé de cet endroit appelé le paradis? En terminant, frères et sœurs, avez-vous une place réservée au paradis? Avez-vous la même espérance qu'à lui-même ce matin? Permettez-moi alors de vous demander, croyez-vous ce qui est écrit dans le Nouveau Testament? Êtes-vous passé par une nouvelle naissance? Êtes-vous devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ? Dieu s'est-il révélé à vous avec un nouveau nom? Dieu vous a-t-il donné un nouveau cantique dans votre cœur? Si c'est votre cas, vous pouvez vous attendre à vivre dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Remercions Dieu que la prédication d'une certaine époque puisse redevenir celle de notre époque. Et si vous voulez quelque chose de nouveau, essayez quelque chose de vieux. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Amen.